Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, il me revient, j'allais dire, l'honneur et l'avantage de vous présenter les personnes qui sont à cette table. Et puis, je vais aussi en profiter pour donner deux informations très précises dans un instant. Donc, avec, et on pourrait, je ne pourrais pas dire autour de Sonia Moumen, mais à côté d'elle, deux des trois personnes, deux des trois femmes qui sont au centre, on peut presque dire, au centre et l'objet de ce livre de Sonia Moumen intitulé « Carnet de campagne » sous titre « Trois jeunes femmes en politique régionale 2010 ». Je ne dirais pas que tout est dit rien que dans le titre, mais voilà un titre qui est parfaitement explicite et précis. Alors donc Sonia Moumen, l'auteur, et puis à côté Isabelle Boudinot, qui est, alors je vais essayer de ne pas me tromper, vice-présidente du conseil régional et adjointe au maire, première adjointe au maire de Bègles, c'est ça ? Voilà, bien. Et puis encore à côté, Alexandra Siari, qui est conseillère municipale, déléguée de la ville de Bordeaux et puis conseillère régionale. Voilà. Isabelle Boudinot est au Parti Socialiste et Alexandra Siari est dans la majorité municipale de Bordeaux, dirigée par Alain Juppé. Elle a été numéro 2 sur la liste présentée, entre autres, par l'UMP, emmenée par Xavier Darcos aux élections régionales. Et puis je me dois d'excuser une troisième personne, une troisième jeune femme, qui est la troisième des trois et qui n'est pas là, qui est retenue par ses obligations justement de représentation et de mandat électoral au conseil régional, qui est retenue à l'étranger et qui s'appelle Marie Bouvet, qui est, elle, qui était présente sur la liste Europe Écologie Les Verts au premier tour des régionales, laquelle liste a rejoint et fusionné pour partie avec la liste Alain Rousset et la liste Front de Gauche. Je crois que j'ai à peu près dit les choses sans trop me tromper. Ça, c'est la présentation de la table. Et puis, deuxième information, il y a, m'a dit Sonia, à l'issue de cette rencontre avec l'électrice et l'électeur, un pot qui sera servi à l'OHARA à partir de 19h30 à peu près, c'est ça ?
Dès la fin de la rencontre.
Dès la fin de la rencontre. Ouais. Je ne sais pas si vous savez où est l'OHARA. Quand j'étais jeune, ça s'appelait le cinéma-théâtre, le Molière, dans le bas de la rue. Donc la Molière, je crois. Bon, pas de commentaire. Bien, alors, je dois dire que c'est un vrai plaisir de présenter ce petit livre. D'abord parce que ça prolonge une conversation qu'on a eue très récemment avec Alexandra Siari. Je me retrouve, j'allais dire, en terre un peu plus connue, c'est-à-dire que nous passons du numérique et de l'immatériel à un support papier, donc je me retrouve sur mes bases. C'est la traduction, on va dire, sous impression et en impression papier, d'un blog que Sonia Moumen a tenu, entre autres, sur les élections régionales, ou plutôt à l'intérieur de son blog, au sein de son blog, un chapitre, on pourrait presque dire, une rubrique qui était ce suivi pendant la campagne des régionales 2010 de trois femmes impliquées, investies en politique. Donc on est sur un support traditionnel, support papier. On est aussi donc à la librairie Mola, qu'il faut remercier pour cet accueil, je pense. Et puis en même temps, Sonia Moumen m'a demandé en septembre, en début septembre, si je voulais bien écrire une petite préface à ce livre, hein, d'une certaine manière, presque pas introduire, mais dire quelques mots sur ce livre. Et je m'y suis prêté bien volontiers, mais j'ai surtout, et je dois dire, été heureux de le faire, parce que je crois qu'il faut le dire, Sonia Moumen est quelqu'un qui écrit très bien, voilà, et qui a un style, en tous les cas, qui à moi me plaît beaucoup. Donc, c'est très subjectif, hein, évidemment, le rapport à l'écriture. Mais je pense que ça mérite d'être dit. C'est pas son premier ouvrage. Elle m'a beaucoup impressionné quand elle m'a confié très modestement qu'elle avait eu une première publication dans la fameuse collection blanche de Gallimard. Pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente un peu au Graal, hein, cette affaire. Mais là, on est dans un exercice pratique qui est un exercice, j'allais dire, de sciences politiques appliquées. Autrement dit, de suivi de manière très empirique de trajectoires individuelles et de trajectoires qui ne sont pas du tout d'ailleurs des trajectoires hasardeuses, puisque ce sont des trajectoires de trois femmes. On pourrait presque dire, je l'ai dit d'ailleurs à un moment, trois femmes en quête d'auteur, hein, un peu à la manière de Pirandello, même si quelque part, ces trois femmes en quête d'auteur, ça dépend comment on écrit le mot auteur, mais moi j'ai écrit ça H-A-U-T-E-U-R, ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de ni négatif, ni envieux, on pourrait dire. Je crois que c'est le propre de l'ambition des femmes et des hommes politiques qui veulent se mettre au service de la cité et au service de leurs concitoyens et concitoyennes. Et ça, je crois que c'est la grande richesse du texte de Sonia Moumen, c'est de nous donner envie, d'une certaine façon, d'abord d'aller plus loin dans la connaissance d'Isabelle Boudinot, d'Alexandra Siary et de Marie Beauvais, mais aussi de se dire finalement, on a souvent tendance à considérer dans ce pays, hein, qui pratique assez facilement ce vieux fond d'anti-parlementarisme ou d'anti-politique, on a souvent tendance à considérer avec une certaine négligence ces engagements. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les engagements individuels et les engagements politiques. Et je considère que il faut effectivement les mettre en valeur. Alors, cette valorisation-là, Sonia l'a fait très bien. Je voudrais aussi indiquer que, par ailleurs, il y a trois autres regards sur ces trois femmes, qui sont ceux d'hommes politiques qui sont, on va dire, plus, comme disaient certains auteurs, plus blanchis sous le harnois, en tous les cas, qui ont une expérience plus ancienne que celle qui est présentée par nos trois héroïnes, à savoir Noël Mamère, qui parle de Marie Beauvais, Alain Juppé, qui parle d'Alexandra Siary, et Vincent Feltès qui parle d'Isabelle Boudinot. Je me suis pris à imaginer qu'il y aurait pu y avoir une sorte de coup de vent qui aurait redistribué les cartes et les commentaires. Alain Juppé qui aurait parlé d'Isabelle Boudinot, Vincent Feltès qui aurait parlé de Marie Beauvais, et éventuellement Noël Mamère qui aurait parlé d'Alexandra Siary.
Il a traité de commissaire politique.
Et donc là, Isabelle dit qu'elle a eu droit à commissaire politique, etc. Bon. Voilà, ça aurait été aussi un exercice qui aurait été un regard croisé ou des regards croisés et décroisés. Bon, c'est peut-être un peu mon côté, pas iconoclaste, mais changement des positions auxquelles on a un peu tendance à attendre les gens et sur lesquelles on attend les gens. Sonia, moi, on va faire d'abord quelques questions un peu rapides, mais surtout je vais vous donner la parole tout de suite parce que je voudrais que vous nous disiez d'abord un peu pourquoi et comment ça vous est venu cette idée de suivre trois femmes dans cette campagne régionale.
Alors, c'est venu de la lecture de Sud-Ouest. Un jour, j'ai vu qu'une jeune femme qui s'appelait Alexandra Siary, qui avait été élue précédemment au municipal sur la liste d'Alain Juppé, était fortement pressentie pour être numéro 2 sur la liste emmenée par Xavier Darcos au régional. Alexandra, j'avais eu l'occasion de la percevoir et de la croiser une ou deux fois. Comme ça, je la connaissais pas spécialement. Mais je me suis dit, mais comment... c'est quoi une trajectoire finalement politique? Comment ça naît, un destin politique? Comment ça s'éteint? Comment cette jeune femme, qui était totalement inconnue politiquement, il y a encore... à l'époque, c'était il y a 2 ans, se retrouve propulsée numéro 2 alors qu'elle n'est pas encartée? Voilà, je me suis vraiment interrogée et je me suis dit que le plus simple, c'était d'aller lui poser directement la question plutôt que de rester dans mon coin de chercher des réponses. Donc je l'ai appelée et je lui ai demandé si elle l'accepterait que je décrypte un petit peu son parcours en la suivant pendant la campagne des régionales. Et puis ça me paraissait peut-être pas suffisant de m'attacher à une seule femme. Le fait qu'elle soit jeune, qu'elle soit nouvelle en politique, je me suis dit peut-être que c'est intéressant de voir comment les autres partis, comment les autres listes se positionnent et comment les hommes politiques font de la place aux femmes et aux jeunes femmes qui sont nouvelles. Donc ça m'a amenée évidemment à rencontrer Marie Beauvais, qui avait été pressentie à un moment donné pour porter la liste au régional. Finalement, c'est Monique de Marco qui a porté la liste. Mais à un moment donné, il était question que ce soit elle. Elle n'avait jamais eu de mandat. C'était sa première campagne aussi. Donc c'était intéressant de voir quelle était sa trajectoire à elle, avec quand même un passé familial et une image médiatique qui était déjà très forte alors qu'elle était inconnue au bataillon, mais son simple nom était quand même assez intéressant. Et puis la troisième personne, c'était Isabelle Boudinot, c'était pour elle aussi sa première campagne des régionales. Et alors Isabelle Boudinot, je dois l'avouer, m'a donné beaucoup de fil à retordre, puisqu'elle c'est une femme de l'ombre, enfin c'était une femme de l'ombre, parce qu'on parle de la préhistoire presque maintenant, c'était une femme de l'ombre, et ça a été un peu plus difficile de la convaincre, puisque ce que je demandais à ces trois femmes, à ces trois candidates, c'était de m'immiscer dans leur quotidien au moment de la campagne et d'accepter que je sois présente à un maximum d'événements, au moment de leurs doutes aussi, parfois, au moment de leur enthousiasme, dans des réunions plutôt privées ou des réunions plus ouvertes. Donc c'est vrai que ça demandait de leur part une grande réceptivité. Et finalement, Isabelle a accepté, et je pense que ça a été aussi une belle rencontre, à la fois de suivre ses parcours, ça a été aussi des belles rencontres individuelles avec de sacrées personnalités.
Et Sonia, est-ce que vous avez eu très vite, dans les premiers contacts, une impression de proximité qui se nouait, ou est-ce que vous avez eu finalement des, un peu comme dans toute relation humaine, quand on tisse des relations nouvelles, est-ce que ça s'est passé de manière un petit peu différente avec chacune des trois? Vous avez dit que c'était pas forcément les mêmes agendas et les mêmes types de responsabilités. Finalement, est-ce que on est candidat ou candidate sur une liste politique, est-ce qu'on se comporte pareil, ou est-ce qu'il y a des alors, spécificités, si oui, lesquelles?
Je crois qu'il y a quand même des spécificités malgré tout. Alors sur le rapport que j'ai pu avoir avec les trois candidates, ils ont été finalement assez différents en fonction de la personnalité de chacune et de la place qu'elles ont bien voulu me donner, sachant que cette place au fur et à mesure de la campagne a évolué. Je peux parler devant Isabelle puisqu'elle est présente. C'est vrai que petit à petit, il y a une relation de complicité, de confiance qui s'est instaurée, qui passait par des rencontres assez espacées quand même, puisqu'Isabelle était très prise. Elle s'occupait aussi des relations médias de la campagne pour le PS. Donc c'était difficile de trouver des temps. En même temps, quand on trouvait des temps de rencontre, c'était des temps extrêmement longs pendant lesquels on avait vraiment le temps d'échanger. À l'inverse, je dirais Alexandra, c'était beaucoup, beaucoup de rendez-vous, très, très souvent, très fréquemment. Elle m'appelait régulièrement, il faut que tu viennes à tel rendez-vous, c'est très important. C'était plutôt sur des temps courts, où on échangeait parfois une minute trente, où elle me faisait part de ses impressions, et puis hop, quand tel un feu follet, elle repartait en campagne. Ça correspond, je pense, aussi à leur personnalité. Donc je dirais que la relation s'est nouée différemment. Et sur la manière de faire campagne aussi, évidemment, les choses étaient très différentes. J'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être Isabelle Boudinot, qui a beaucoup revendiqué son statut de femme de l'ombre, donc qui était peu présente médiatiquement, au contraire, qui servait l'image de la liste qu'elle servait. Alexandra Ciari, assez présente quand même, puisque numéro 2, et évidemment Marie Beauvais, qui était l'icône médiatique féminine de la campagne et qui a été extrêmement, qui a beaucoup joué de son image, et les médias ont beaucoup utilisé son image aussi de jeune femme dans une filiation politique très forte.
Dans les doutes que vous avez perçus chez les unes et les autres, est-ce que c'était lié à des situations qu'on considère des vents porteurs ou moins porteurs pour les listes? Bon, On le sait, dans cette période de campagne, on va dire en gros de janvier à mars 2010, il y a eu des moments où il y avait des listes dont on sentait qu'elles étaient un peu plus à la peine que d'autres, hein, parce que soit elles se constituaient un peu plus tardivement, soit elles étaient l'objet éventuellement de tensions internes, soit il n'y avait pas des programmes particulièrement définis. C'était quoi les moments un peu d'interrogation?
Je pense que les candidates seraient mieux placées que moi pour répondre à ça. Je pense que c'est un peu un mélange à la fois d'un mauvais article dans la presse, par exemple, ou un article critique, une réunion qui s'est mal passée, un tractage sur un marché qui ne donne pas les résultats attendus, un état de fatigue. Ça pouvait être des choses extrêmement diverses, mais là-dessus, je pense que quand même... Les candidates seraient plus à même de répondre.
Alors, sur la dimension candidate par rapport à candidat, bon, il se trouve que Marie Beauvais, avec Monique de Marco, étaient les deux seules qui étaient en situation de tête de liste, on va dire. Hein, l'une pour la section départementale Gironde, et puis Monique de Marco pour l'ensemble de la liste. Bon. Alexandra était deuxième. Isabelle, vous étiez plutôt, pas dans les profondeurs du classement, mais en position d'éligible. Hein, ça, c'était en même en cas de défaite, vous aviez fait votre calcul. Hein, et ça, ça fait partie des choses toujours extrêmement sensibles que les partis politiques... vérifie avec tout un tas de simulations. Parfois, ils se plantent, d'ailleurs, dans la division et dans la règle de 3. À la charnière, là, avec toute une stratégie en disant « Mais tu seras très bien à la charnière parce que tu vas dynamiser les choses, etc. » Bon. Bon, là, ça fait partie des rhétoriques d'évacuation, on va dire, tout ça. Est-ce que elles vous ont fait part de cette dimension, alors là, on va dire, du genre, hein, être femme en politique, comment elle pouvait se faire emmerder, comment elle pouvait, etc., quoi.
Bah, je crois que ce n'était pas l'objet au moment de la campagne de revendiquer un genre en politique. Moi, ce qui m'a semblé... Enfin, ce qu'elle revendiquait pour deux d'entre elles, c'était le fait qu'elle ne soit pas encartée. Plutôt que d'être femme, c'était le fait d'être sur une liste UMP.
C'est-à-dire que c'était
Marie Beauvais et Alexandra Ciari qui ne sont pas encartées et qui, en même temps, faisaient campagne dans des positions quand même très en vue sur des listes clairement politiques.
Pourquoi elle disait qu'elles n'étaient pas encartées Pourquoi elle mettait l'accent là-dessus?
Parce que je pense que c'était important pour elles de revendiquer leur place depuis la société civile, leur D'accord. regard et leurs convictions et leur engagement depuis la société civile, et non pas depuis un parti. Donc c'est plutôt ça que j'ai entendu de leur part, plutôt que la revendication d'un sexe.
D'accord. Peut-être... je propose que Sonia vous refassiez pas l'interview, mais peut-être on peut demander à Isabelle et Alexandra de réagir à cette publication. Je ne sais pas livrer une confidence, mais je peux quand même le dire. Alexandra, vous m'avez dit, je me demande si ça va intéresser les gens. C'est ça que vous m'avez dit.
Super. En fait, il ne faut jamais parler avec Jean Petot.
Méfiez-vous, c'est la règle.
C'est pas ma vengeance, mais vous savez à quoi je fais allusion. Il ne fallait pas dire des choses sur
Non, non, mais moi, je commence, Isabelle. Ouais. Bon, je t'en prie. Non, c'est vrai que quand j'ai vu cette publication la semaine dernière, ça a été une publication un peu perturbante, en fait, parce que c'est étonnant d'abord de voir, puisque la campagne est passée, on est en place, chacun va qu'à ses occupations et essaye de répondre à l'engagement qu'il a pris devant les électeurs. Donc ça prend beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que ce temps de campagne qui nous a marqué profondément physiquement, finalement, s'efface très rapidement avec le temps. Et on passe très rapidement à autre chose. Et on est très occupé à autre chose. Donc tout d'un coup, de voir cet ouvrage sur ces pages, c'est nous remettre au centre d'une actualité qui n'existe plus. Donc c'est mettre un coup de projecteur sur... ce qu'on peut être en tant qu'individu, et ça me semblait un peu tout d'un coup déplacé. Et je me dis que finalement, les gens aujourd'hui nous ont élus pour obtenir des résultats, défendre des positions, et que c'est probablement plus important pour eux de voir le résultat de ce travail, ou en tout cas comment on envisage de le faire, plutôt que de savoir que tel ou tel mentor politique nous soutient et pour quelles raisons et quel type de femme on peut être. Donc tout d'un coup, ce coup de projecteur m'a paru un peu décalé par rapport à l'idée que je me fais de la mission qui m'a été donnée ou que je décide d'avoir.
Mais c'est voilà. Parce que ça passe par l'écrit imprimé.
Alors, c'est vrai que ça rebondit un peu avec le débat qu'on a eu hier sur le virtuel et sur l'écrit. L'écrit, ça a un côté un peu solennel, parce que finalement, le virtuel, ça passe, mais toutes les informations vont très, très vite. En plus, nous, on a quand même il y a eu une fin de campagne dans notre groupe qui a été un petit peu compliquée et difficile.
Fin de campagne, vous voulez dire ?
La fin de campagne des
régionales. Après le deuxième tour.
Voilà. C'est vrai que quand les médias ou quand les gens ont parlé de cette campagne, ils ont plus parlé de la trajectoire de Xavier et de ce qui pouvait arriver, de Xavier Darcos. Que de ce qui avait pu être dit pendant la campagne et de l'action même de mener une campagne. Les candidats élus l'oublient, mais le public l'oublie aussi. C'est vraiment très clair. C'est des moments de vie qui sont très particuliers. Et donc, tout d'un coup, de le voir par écrit, ça donnait une importance à quelque chose qui... C'est pas que ça n'en avait pas quand on le vivait, mais ça avait un objectif bien précis.
On va dire qu'il y a un effet grossissant.
Il y a un effet vraiment grossissant, oui. Mais bon, ceci étant, moi, d'abord, je suis hyper contente que Sonia ait produit ce travail, puisque je pense que ça permet aussi de voir ce que peut être ce travail, à quel point c'est un travail vraiment professionnel. Et puis ensuite, je pense que c'est aussi important pour nous, parce que ça a été des moments qui ont été très riches à titre personnel, et c'était important de pouvoir la voir régulièrement. Elle était un petit fil rouge, et la possibilité aussi, de temps en temps, de sortir de cette mise en scène, puisque la campagne, c'est quand même une énorme mise en scène, où il se passe des choses, où tout est toujours énorme, rapide, intense. Donc Sonia, ça, quand on la voyait, ça permettait un peu de radoucir les choses et puis peut-être de prendre la juste mesure de ce qu'on était en train de faire et d'avoir du recul.
Isabelle, vous diriez la même chose avec vos mots à vous, mais c'est très différent ce que vous avez ressenti.
Moi, c'était presque une réaction inverse. Je ne me suis pas du tout posé la question de savoir si ça pouvait intéresser... ou pas, parce que je pense que c'est vraiment un petit ouvrage de sciences politiques, là je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand on voit les mentors, c'est vrai que la première réaction c'est un peu désagréable, on se dit on est des choses un peu qui avront finalement notre carrière, on la doit à un mentor. Passer cet aspect désagréable qui est une question un peu féministe, on pourrait revenir là-dessus sur la question du genre en politique.
Mais oui, ça, faut qu'on revienne là-dessus.
Oui, je pense que c'est. Enfin, moi j'estimais que c'est un des angles qui a fait que j'ai accepté de participer à ce livre, parce que je pense qu'il y a une vraie question là derrière. Mais sur de la même manière que je comprends mal la petite part d'hypocrisie qui est à dire qu'on n'est pas encarté, je pense qu'il y a une part d'hypocrisie à dire que on n'a pas été sur cette liste parce qu'on avait des mentors. C'est bien parce qu'on a été soutenu par des hommes politiques qu'on était sur ces listes.
Ça vaut aussi pour nombre de candidats qui mettre le pied à l'étrier parce qu'ils ont des mentors. C'est un peu ce que...
Ça, c'est indépendant de la question du genre. C'est vrai que ça, c'était... Il y a ce sentiment-là qui est peut-être un peu... Justement, qui n'est pas le bon, de dire « Bon, c'est désagréable, on dit que c'est des hommes qui nous ont placés là où on est. » Mais en fait, la question n'est pas là. C'est qu'effectivement, c'est des hommes qui constituent leur liste. Il se trouve qu'on est encore dans un paysage politique très masculin. Et aussi, il y a une question non seulement de genre, mais une question de génération. On est quand même dans un âge politique, un âge moyen qui est plutôt élevé. Même si je rappelle que Vincent Feltès est plus jeune que moi. Mais la vraie question sur la façon dont on rentre en politique, je pense que Marion pourra en parler aussi, c'est effectivement comment les partis travaillent, comment on fait émerger des gens, comment certains d'entre nous sont des apparatchiks. Moi, je me rappelle d'une lecture très douloureuse d'un livre de Marion où on parlait des personnels de cabinet comme des... Enfin bon, je sais pas, c'était pas très agréable. Mais c'est vrai que j'ai fait partie de cabinet. C'est vrai qu'en cela, je suis peut-être la plus politique des trois. Après, pourquoi on franchit le passage de rentrer en politique, ça c'est, je ne sais pas si la lecture de ce livre donne des éléments de réponse, mais je pense que c'était le but.
Je voulais vous poser une question. Vous étiez des trois, celles qui n'avaient pas le plus d'expérience politique, mais en tous les cas, l'expérience d'une première élection. Alexandra aussi, en 2008, mais c'était Marie Beauvais qui, elle, a s'est trouvée par ordre d'apparition sur le tableau électoral la plus récente. Mais comme vous étiez première adjointe de Bègle, et que vous l'êtes toujours, est-ce que la campagne des régionales était très différente à la fois dans la mobilisation, dans l'ampleur de la campagne de Bègle, régionale et municipale? Alexandra, vous pouvez répondre aussi, parce qu'il y a un autre intérêt, c'est que vous avez gagné deux fois. Et puis, Alexandra, elle a gagné en 2008, elle a été battue en 2010. Il se trouve que d'ailleurs, l'adversaire de 2010 était le même, Alexandra, qu'en 2008, si ma mémoire est bonne. Ouais.
Non, moi je suis un cas particulier de ce point de vue-là, puisque c'est vrai que sur la campagne des régionales, j'avais un rôle vraiment de relation presse. Ouais. Donc là, j'étais un peu complètement engloutie dans le boulot au quotidien. Ce qui n'était pas... Mais dans les deux cas, j'étais quelqu'un de l'ombre, ça c'est sûr. J'étais, que ce soit un Noël Mamère ou un Alain Rousset, c'est pas nous qu'on attend sur les estrades. Ça.
La proximité à Rousset était plus grande que celle à Mamère, en tout état de cause, quand même.
Oui, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais j'ai pas de... Je m'entends très bien avec Noël Mamère.
D'accord. Et Alexandra.
Les régionales ont été un peu compliquées de ce point de vue-là, ça n'a pas nuit à... J'étais contente qu'ils ne se présentent pas, quand même.
Sur le rapport au mentor ?
Oui, sur le rapport à la campagne. Vous étiez en situation de numéro 2 pour les régionales. Ça vous exposait beaucoup plus que dans la liste, alors que vous étiez nouvelle venue en 2008. Et finalement, là aussi, quand même, la relation avec Juppé n'était pas la même qu'avec Darcos. Comment vous avez géré ça ?
Moi, en fait, la question ne s'est pas vraiment posée comme ça. C'est-à-dire que finalement, je trouve que le rapport qu'on a à sa tête de liste n'est pas si fondamental que ça. Donc, il s'est trouvé que moi, je me suis plutôt très bien entendue très vite avec Xavier Darcos, parce que c'est plutôt un type sympathique et bienveillant, donc qui n'est pas dans une logique... Il n'a pas de rapport à l'autre blessant, il n'est pas dans un état d'esprit où il pense que parce qu'on serait nouveau ou nouvelle venue, on n'a pas sa place dans la politique. Donc il se trouve qu'il avait cette personnalité qui faisait que les choses se sont bien passées très rapidement. Donc oui, c'est vrai qu'Alain Juppé, je le connaissais, et à la limite, quand j'ai fait la campagne municipale, pas tant que ça non plus. Et finalement, Xavier, comme les choses se sont passées... très rapidement, de manière conviviale, le rapport à la tête de liste, enfin, je veux dire, moi, je... Voilà. Ça n'a pas été quelque chose de... Ce qui a été plus perturbant pour nous, très probablement, c'était le fait qu'il soit ministre en même temps.
Il avait des problèmes d'agenda, des choses comme ça.
Oui, il avait des problèmes d'agenda, évidemment, mais il y avait surtout le prisme des médias qui ont beaucoup insisté sur l'idée que peut-être un ministre ne devrait pas faire campagne, que comment pouvait-il envisager de faire ses deux missions en même temps. Voilà, donc il y avait toute cette question-là. Donc avec lui, il y a eu un débat qui a forcément été aussi un débat très national. Il se trouve que cette tête de liste-là, dans cette campagne, a influé mais notre comportement à nous dans la liste, mais je pense aussi l'attitude politique de tous les gens qui ont participé à cette campagne. Alors, pour revenir juste sur ce qu'a dit tout à l'heure Isabelle, même si ce n'est pas l'objet, sur l'hypocrisie d'être encarté ou pas, ou de dire qu'on est encarté ou pas, je pense au contraire que c'est très important parce que ne pas être encarté, ça ne veut pas dire renier les gens pour lesquels vous faites campagne, puisque vous appartenez bien à la famille politique pour laquelle vous défendez des idées. Et moi, je le fais avec beaucoup de sincérité et beaucoup de rigueur. Mais c'est un état d'esprit, quand même. Ça veut dire que on n'a pas... l'engagement ne vient pas d'une certaine forme d'idéologie ou d'une certaine militance, et que donc le parcours du militant, parce que j'en côtoie un certain nombre, c'est beaucoup de réunions, c'est une construction, c'est un certain nombre de discours, c'est aussi des échanges. Voilà, c'est ça, je pense, la différence entre quelqu'un qui vient de la société civile et qui s'engage pour une liste et pour des idées politiques, et puis quelqu'un qui a choisi, indépendamment de la campagne, avant et après, de continuer à poursuivre dans le cadre de réunions, dans le cadre de groupes, dans la constitution de programmes. Voilà. Donc je pense au contraire que c'est extrêmement différent d'être encarté ou de ne pas être encarté. Et en plus, moi, je pense que c'est important, et c'est pour ça que je suis contente que dans le carnet de campagne, Sonia en parle, parce que j'aimerais bien que beaucoup de gens aient envie de faire de la politique en se disant qu'on peut aussi en faire sans faire partie d'un parti politique. Que c'est possible.
Cela dit, on ne peut pas rester, je veux dire, toute sa trajectoire politique de la société civile, ça n'a pas de sens. Maintenant, vous êtes marqué, quand on est numéro 2 de la liste UMP au régional, que vous ayez la carte ou pas, j'allais dire, c'est presque une question administrative de cotisation.
Bien sûr,
vous êtes identifié UMP maintenant.
C'est différent, je crois, l'identification. Oui, je suis identifié UMP et ce n'est pas quelque chose qui me pose de problème du tout.
D'accord.
Mais je pense qu'au moment où j'ai fait mes deux campagnes, je n'avais pas ce bagage.
Oui. Toutes les deux, est-ce que vous continuez à exercer une activité professionnelle ?
Moi, j'ai arrêté.
Oui, Isabelle et vous ?
Moi, je continue.
À plein temps, à mi-temps, à la communauté urbaine ?
À 4/5e.
Ah d'accord, ah oui. Mmh. Ah, oui. On peut vous demander pourquoi, si c'est pas indiscret.
Est-ce que c'est un peu dans la même logique que celle que je viens de tenter de vous
exposer. C'est pour pas vivre de et pour la politique. De la politique, d'accord.
Voilà, c'est qu'à cet instant T, au moment où on parle, parce que vous avez raison quand vous dites ça n'a pas de sens de ne pas être encarté toute sa vie, mais il se trouve que pour l'instant, moi je suis d'accord, dans une logique, ça fait 2 ans que je suis élue, ça ne fait pas non plus 10 ans.
Et le maintien d'une activité professionnelle, c'est quelque part pour l'idée d'avoir une indépendance possible, quoi. Matériel.
Bah parce que j'aime profondément mon métier aussi. Et je suis très heureuse dans mon métier.
Isabelle, c'est parce que vous avez trop de charges. Enfin, vous êtes vice-présidente aux finances, c'est ça.
Oui.
Voilà. Là, c'est pas compatible.
Première adjointe à Bègles, déjà aux finances,
je pense. D'accord.
Non. Ouais. Peut-être. En tout cas, je souhaitais passer un premier cycle budgétaire, un exercice budgétaire, comme on dit, dans le jargon. Au moins, là, c'est ma première. Là, ça va être mon premier budget en décembre. J'avais un peu le sentiment d'avoir tout à apprendre. C'était pas du tout ma formation initiale, la finance publique. Je suis pas. Alors, moi, je fais pas de la politique sans savoir exactement de quoi je parle. Je suis très techno dans ma façon d'aborder les dossiers. Donc, j'ai effectivement besoin de bien posséder les dossiers avant de pouvoir en parler.
Sonia, peut-être. Il n'y a pas de moi qui pose des questions ici.
Donc peut-être que vous pourriez revenir sur la manière dont vous avez vécu le suivi. Et Isabelle l'évoquait tout à l'heure, pourquoi avoir accepté de participer à cette aventure qui vous a demandé quand même un petit peu d'énergie et de temps, en plus de votre campagne ?
C'est moi. C'est moi qui commence. Alors bon, pourquoi j'ai accepté ? D'abord, moi, j'aime bien accepter toutes les nouvelles expériences qu'on me propose. Donc, quand Sonia m'a contactée via le net, en me demandant si ça m'intéressait, moi j'ai dit que oui, évidemment, ça m'intéressait de pouvoir faire état de ce que peut être la vie d'un candidat quand on fait campagne. Parce que moi je suis assez sidérée de voir que beaucoup de gens se font de drôles d'idées sur ce que peut être un élu, sur ce que peut être un candidat, sur ce que peut être notre quotidien. Que parfois, il faut quand même l'avouer, l'image que les gens peuvent avoir du politique est souvent abîmée. Et qu'au contraire, je pense que dans la quasi-majorité des cas, on est plutôt des gens très engagés pour la cité et très désireux de faire le mieux possible. Et je trouvais intéressant qu'on puisse voilà, avoir quelqu'un qui puisse nous suivre dans la durée et montrer aussi à quel point ça peut être difficile, mais aussi à quel point ça peut être enthousiasmant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement faire campagne à tous les moments d'une journée, et justement quand il y a un mauvais article de presse ou quand on vient de faire les marchés. Voilà, je trouvais que c'était intéressant que quelqu'un pose ce type de diagnostic et puisse en faire état. Donc moi, la personnalité de Sonia me plaisait, le fait qu'elle veuille le faire sur le net me plaisait, et puis l'idée aussi de partager avec le plus grand nombre ce qu'on pouvait vivre, je trouvais que c'était sympathique.
Isabelle.
Oui, moi c'était aussi... bon, effectivement, la personnalité de Sonia a été décisive, puisque à l'origine, je n'avais pas du tout envie qu'on me suive, et je n'avais pas du tout envie d'une approche intimiste, nombriliste, narcissique. C'était pas... j'avais pas le temps. Et puis ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, l'idée de faire passer ce message qu'effectivement la politique, surtout dans ces périodes où on dit la mondialisation, la crise, les finances, tout ça, les politiques n'ont plus de pouvoir, ils ne servent plus à rien, ils font que c'est des gestionnaires. Je trouvais que c'était important de montrer qu'il fallait des vraies convictions, que la politique était un vrai levier pour faire bouger les choses, qu'on pouvait faire des actions. Bon, en plus... Pour moi, c'était plus facile, sans doute, j'étais celle des trois candidates pour qui c'était le plus facile, puisqu'on avait un bilan à porter. Et ça, c'est extrêmement confortable quand on est en campagne.
Vous n'étiez pas sortante.
J'étais pas sortante, mais j'étais complètement... voilà, c'était.
Pas sortante. Hein.
Oui, là, quand on est... bon, c'est vraiment un scrutin de liste où on travaille pour un tête de liste et on est aux côtés d'un tête de liste et on est pleinement dans le soutien des politiques qu'il a mis en place ou qu'il préconise. Hein. Il n'y a pas de... dire, en plus, quand on est en campagne, il n'y a pas de, comment dire, de nuance entre chacun des candidats. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, et moi, c'est effectivement la politique qu'a menée Alain Rousset, je m'y retrouvais complètement et ça ne me posait aucun problème de la soutenir. Et ça m'intéressait de pouvoir de montrer que les régions étaient utiles, que la politique régionale servait à quelque chose. Et c'était cet angle-là qui m'intéressait.
J'ai deux dernières questions. Une très rapide, est-ce que vous pensez qu'il y a une manière genrée de faire de la politique? Autrement dit, est-ce que les femmes font de la politique différemment des hommes? Et la deuxième question, je crois qu'il y en a une de vous deux qui est croyante en Internet et l'autre qui est totalement agnostique. Il me semble bien. Hein.
Vive les livres.
Donc peut-être que vous pourriez dire aussi parler de cette différence-là. Alors sur la question de est-ce qu'il y a une manière féminine, est-ce qu'il y a une sexualisation de l'action politique, sachant que vos réponses n'engageront que vous et elles n'ont pas de valeur autre que heuristique et individuelle.
Vas-y. Oui. Fondamentalement, sans doute pas. Je pense qu'on n'est pas plus sensible, plus... c'est un peu énervant de voir les femmes dans le social, les hommes dans la technique, ou je sais pas. Je pense que c'est pas ça qui se joue. Je pense d'ailleurs que la question de génération est plus prépondérante que la question de genre en politique. Je pense que les nouveaux élus, qu'ils soient hommes ou femmes, ont quand même une façon de faire de la politique un peu différente. Ou peut-être avec l'âge et l'expérience, ils deviendront comme les autres.
Vous voulez qu'on en parle de ça? J'ai des histoires, des témoignages à vous raconter.
Je veux bien.
D'accord,
plaisir. On pourrait faire un second volume. Par contre, bon, quand même, dans l'exercice de la fonction, bien des fois, on se dit justement si ces réunions, ces plénières, ces commissions permanentes, toutes ces commissions, c'était plus des femmes qui, plus jeunes, peut-être, qui avaient des enfants. Ouais. Enfin, je pense que ça durerait un peu moins et les gens s'écouteraient un peu moins parler. Il y a quand même une question. J'ai l'impression qu'on a plus. Plus l'envie d'efficacité. J'ai un peu ce sentiment-là.
D'accord. Alexandra.
Bon, c'est quand même un vaste débat. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de faire de la politique. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai 3 petits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très lourd à porter, dans la famille. Parce qu'une maman, ça reste une maman, surtout quand ses petits sont petits. Donc en plus, comme la politique, c'est pas facile à expliquer et à partager, parce que ça reste quand même... voilà, maman va faire campagne, donc maman disparaît pendant 4 mois, porte des t-shirts à l'effigie d'un type qu'on n'a jamais vu, arrive complètement épouvantée à minuit en disant « Darkos, Darkos ». Enfin, je veux dire, il y a un côté décalé. Bon, moi, pour la petite histoire, quand même, mon petit dernier apprenait, en deuxième année de maternelle, la maîtresse me dit « Votre petit a écrit son premier mot, c'est Darkos. »
Oh, quelle horreur.
Vous voyez le... Voilà, donc bon, je veux dire, c'est sûr que tout d'un coup, il y a une espèce d'intrusion hyper agressive dans votre vie de maman qui est inexplicable, et de toute façon, quand même, vous prendriez du temps à l'expliquer, ça va s'arrêter aussi net que c'est arrivé. Donc, c'est quand même une chose à gérer. Et par ailleurs, une fois que vous êtes en place, c'est vrai que ça prend énormément de temps, que c'est souvent le soir, c'est vrai que les conseils durent très longtemps. Donc, je revendique clairement le fait que les femmes qui font de la politique ont un niveau de responsabilité, enfin, des choses à gérer qui sont... très, très, très compliqué, et que quand on laisse ses petits à l'école le matin, pour faire... il faut qu'on ait vraiment envie de s'engager pour la cité et pour les autres.
Là, on retrouve la problématique de ce qu'on appelle le plafond de verre, qui fait que dans les carrières, on voit bien que dans des trajectoires professionnelles, à 40 ans, c'est là qu'on retrouve cette fameuse grande présence des hommes par rapport à des femmes.
À ceci près, Jean, qu'en politique, on vous dira, quand vous êtes une jeune femme et que vous avez des mandats et que vous avez des enfants... on pensera souvent que si vous faites politique, c'est parce que vous faites de la politique, c'est parce que quand même vous délaissez vos enfants. C'est-à-dire qu'il y a quand même un état d'esprit qui tenterait à penser que vous préféreriez vous mettre en scène plutôt que de vous occuper de vos petits. Et que quand même, cette idée que vous auriez saugrenue d'avoir envie de vous engager paraît quand même bizarre, quoi. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a l'autre chose qui est aussi, moi, qui m'a pas mal marquée pendant la campagne. Le nombre de personnes qui s'autorisent à vous à faire un commentaire sur la manière que vous avez d'être habillée, sur le type d'échange que vous pourriez avoir, sur le niveau de relation que vous pourriez avoir avec votre tête de liste ou les gens qui vous entourent. C'est-à-dire que vous avez quand même toujours des gens qui, tout d'un coup, s'autorisent à avoir des commentaires, je pense, qu'ils n'auraient pas avec des hommes. Mais ça, c'est probablement pas plus vrai en politique que dans d'autres choses. Mais du coup, pour moi, la question du genre, si elle se pose, elle se pose comme ça.
D'accord.
Peut-être en ayant observé ces 3 candidates-là, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à aucun moment, elles n'ont revendiqué le genre comme un étendard, c'est-à-dire qu'elles faisaient de la politique comme des citoyens engagés, citoyens, citoyennes engagées, mais à aucun moment, moi, j'ai senti on est des femmes, donc c'est pour ça qu'on est là. Au contraire, hein, même, je dirais que... Et c'est dans ce sens-là que tout à l'heure, je disais que c'est peut-être plutôt la question du non-encartage qui était mis en avant pour 2 d'entre elles, plutôt que leur sexe. Après, sur la manière de faire campagne, c'est extrêmement difficile de savoir s'il y a une manière plus féminine ou plus masculine. Je rejoins assez Isabelle sur le caractère générationnel, en tous les cas, et sur le fait d'être relativement neuf sur ce type de campagne, où là, il y a encore une énergie extrêmement positive et un désir de partage qui s'émousse sans doute avec les années. Enfin, je ne leur souhaite pas.
Isabelle, vous y ajoutez.
Oui, non, j'ai une nuance sur le fait que c'est peut-être aussi parce qu'on est des femmes qu'on était sur cette liste, parce que c'est un mode de scrutin qui imposait la parité, les listes Shabada, comme on dit. Et la question se pose d'autant plus qu'on est en train de revoir à l'heure actuelle, avec la réforme territoriale, le mode de scrutin pour le fameux conseiller territorial. Et que si ce mode de scrutin est maintenu, on va se retrouver comme au Conseil général avec 15% de femmes. Donc je pense que là, il y a un vrai danger dans ce mode de scrutin qui nous est proposé par un gouvernement UMP. Et qui est vraiment un vrai danger pour les femmes en politique.
Une précision, je crois, qui méritait d'être faite. Maintenant, sur l'utilisation de nouveaux moyens, on va dire, de communication. Bon, alors, on va commencer par vous, Alexandra. Vous êtes évidemment très très branché, on en a parlé hier soir. Il se trouve pour la petite histoire, hier soir on était dans un débat de l'Académie des dirigeants à l'ENM où il était question de réel, de numérique, etc. Bon, c'était tout à fait passionnant et Alexandra a représenté d'une certaine façon cette génération politique qui est, comme on dit, sur le net. Bon. La description qu'a fait tout à l'heure Sonia de votre type de contact très rapide, une minute trente, les échanges comme ça, je trouvais que c'était très, très, en cohérence et dans la tonalité, sans doute peut-être de la manière avec laquelle vous fonctionnez, c'est-à-dire très rapide, ça va très vite, et d'une certaine façon, on peut dire que la forme du support Facebook, si j'ai bien compris, par exemple, correspond sans doute ou vous correspond bien. Est-ce que, par rapport à Isabelle, vous avez parlé de cette manière complètement différente de faire la politique Vous en avez parlé ensemble, non ?
Non, alors d'abord, on a parlé avec Isabelle que parce que Sonia nous a mis en situation d'échanger.
Vous ne parlez pas quand Sonia n'est pas là.
Connaît avec Isabelle, il faut quand même... Voilà, les campagnes, c'est quand même des moments qui sont un peu sévères quand même. En pleine assemblée, bon, si vous voulez, on se dit des trucs qui sont... sympa, mais enfin bon, c'est quand même un peu copieux. Ouais. Donc déjà, il faut quand même prendre conscience qu'on est quand même de cas rares, quoi. Vous voyez, ouais. Ça se passe plutôt pas mal, mais bon. Ouais. Donc on peut pas dire non plus qu'on a des échanges qui durent des heures. Et en l'occurrence, on n'a pas parlé de cette histoire sur le net. Moi, je savais même pas trop d'ailleurs qu'Isabelle n'était pas spécialement sur le net. Je sais même pas si elle a un compte Facebook.
Ça va pas la tête.
C'est parti.
Voilà. Moi, je suis sur le net dans ma vie tout court et pas que depuis que je suis élue. Donc, c'est un outil que j'aime bien. Alors hier, on peut redire les chiffres qu'on avait dit hier, même si Amar Lacquelle les avait un peu modifiés. Bon voilà, 14 millions de Français qui sont sur Facebook, 80% qui ont moins de 24 ans. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc je pense que l'élu doit être sur la toile, parce que même si il a raison de se méfier un peu de ce qui peut... de ce qui peut y être dit et de ce qu'il peut y être fait, c'est un moyen pour lui d'échanger, de partager, d'écouter et de recevoir des contributions d'un public qui ne va peut-être pas dans des modes d'autres outils politiques. Et par ailleurs, justement, s'il trouve que c'est risqué, il doit aussi mieux le comprendre pour mieux s'en protéger ou pour mieux protéger les citoyens qu'il est censé représenter. Voilà. Bon, ça, c'est... Donc, moi, c'est vrai que j'ai fait campagne aussi sur le net et que j'y ai trouvé un public qui était intéressé par ce que je pouvais y publier et que, par ailleurs, je voyais aussi d'autres gens qui n'étaient pas sur le net et avec lesquels je pouvais échanger. C'est un autre moyen de... Voilà.
Alors maintenant, Isabelle, sur la pratique politique dite des terroirs traditionnels.
Non, c'est pas du tout celle des terroirs, c'est celle du fond, du dossier, du temps d'élaborer une pensée. Je ne suis pas totalement rétive, je suis abonnée à Mediapart. Mais ceci dit, quand j'ai un peu de temps et que sur Mediapart, après avoir lu un article de fond, je vais voir les différentes interventions derrière. C'est quand même... C'est pas de l'information. Et moi, ce côté Facebook, qui est quand même assez narcissique, où on raconte qu'on va promener ses enfants, qu'on a tendu la pelouse, pour être très méchante.
ce que fait, par exemple, Vincent Feltès, assez facilement, par exemple.
Moi, ça, j'ai jamais...
Ou Mathieu Rouvert.
Est-ce que c'est d'abord, pas ça... je prends tellement... Moi, je suis amoureuse des livres.
La fracture dans le rapport à la politique, est-ce que ça risque pas d'être ça? Comment vous...
Mais je crois pas du tout que ça a eu une quelconque influence sur la manière de faire de la politique. Enfin, moi, en tout cas... Moi, je suis une amoureuse des livres et j'ai besoin de prendre du temps pour lire. Et j'ai pas de temps à m'occuper de quelque chose qui me semble assez superficiel sur Facebook. Donc je... Bon, il n'y a pas que les livres, j'écoute la radio, mais j'aime les médias qui vont dans le fond des dossiers, j'aime les médias du temps long. Ouais. À la radio, j'écoute plutôt France Culture que je ne sais pas, je vais pas citer, quoi. Oui, que France Info, par exemple.
Bien, bah écoutez, merci.
Bon, non, juste quand même, oui, parce que je pense en fait que c'est absolument pas incompatible. Voilà. Je pense que c'est pas soit l'un soit l'autre. Mmh. Je pense que voilà, et je pense pas que parce qu'on est sur Facebook, on a moins de temps pour faire le reste. Je pense pas que. Je crois pas que pour ceux qui ont l'habitude d'être sur la toile, bon, je sais pas, Isabelle, Olivia, Stéphanie, Manon, Karine. Il n'y a pas que des gens qui racontent des choses inutiles. Il y en a, mais voilà, on peut y trouver aussi des vrais articles de fond, des vrais débats de fond, et en tout cas. Il faut simplement se dire que c'est un mode de conversation. De la même manière que vous pouvez être happé dans une réunion, un conseil de quartier par quelqu'un qui va vous dire des choses, et bien sur le net, vous allez être saisi d'un certain nombre de questions. Voilà. C'est un type de conversation et il n'est pas moins bien, moins profond ou moins voilà, que ce qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours.
Et en tous les cas, pour le coup, il n'est pas plus genré, alors là,
non,
du tout.
Non, voilà, c'est une autre manière. Non, mais peut-être qu'on peut boucler sur l'idée d'être dans un parti. C'est vrai que pour moi, les réunions de section ou de faire des cafés politiques, etc., c'est façon terroir, peut-être, si tu veux l'appeler comme ça, de faire de la politique, mais c'est de la formation populaire. Et c'est vrai que je peut-être qu'effectivement, on ne touche pas le même public et que peut-être là, des journées extensives permettrait d'utiliser toute cette palette. Bon, c'est ce qui fait l'intérêt d'un groupe politique, qu'il soit constitué en parti ou pas, c'est qu'effectivement, chacun a sa méthode et le public à qui il s'adresse.
Une dernière question, je crois. Hein, il faut prendre une dernière question ou réflexion, commentaire. Allez-y. Il n'y a pas de... Oui, oui.
Ah, c'est très bête. Est-ce qu'on voudra...
Est-ce qu'on vous drague ?
Est-ce qu'on vous drague ? À part Jean Petot, non ?
Oh, c'est dégueulasse !
Non, jamais, même Jean Petot ne nous.
Est-ce qu'on nous drague plus ?
Depuis que je suis aux finances, oui. Depuis que je suis aux finances, j'ai une cour assidue de tous mes collègues.
Non, bien. Non, hein, la réponse est non. Hein.
Oui, donc la réponse est non.
Non, mais j'ai... c'est raté d'un point de vue.
D'accord. Bah, écoutez, je crois qu'on va se quitter sur ce non, hein, et sur ce grand moment de désespoir et de solitude.